Canus Info. Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie, sans mexis, pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller, ouin ouin, mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios.
Non,
les plus rebelles de la radio.
Leur place n'était pas là. Dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont en cravate, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non, ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça.
Et bonsoir, vous êtes bien sûr Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h05 et c'est l'heure du Canus Info. Comme vous le savez, tous les deuxièmes lundis de chaque mois, le Canu Info se déroule en mixité choisie. Et on est très contente de vous retrouver après un mois d'absence.
Et de quoi on va vous parler ce soir ? On va commencer par la citation de la semaine, puis on ira du côté de l'international vous parler des grèves infirmières.
Ensuite, toujours à l'international, on ira parler du Pérou. Et au national, on présentera un reportage sur le roller derby.
Puis on enchaînera sur Darmanin. Alors on en a marre de vous parler de Darmanin, mais évidemment il est toujours là, il passe en procès cette semaine.
Toujours dans le national, on parlera de la répression en Corse et on reviendra ensuite sur l'attaque de l'usine Lafarge.
Et on continuera sur les victoires en parlant de la grève victorieuse dans l'aéronautique. Puis on vous parlera de détenus à Rennes qui n'ont plus accès à l'eau depuis maintenant pratiquement 3 semaines.
Ensuite, au local, on vous présentera un reportage sur la manifestation des grévistes de ménage à Perrache. Ensuite, une petite archive sur le 8 décembre, ce qu'il s'est passé dans les rues lyonnaises ce jour-là.
Et c'est un Canu Info de reportage. On vous passera après un reportage sur le rassemblement qui a eu lieu toujours le 8 décembre, organisé par Jamais Sans Toi.
Et puis, on finira sur une interview de personnes de l'association Caibiria.
Et on commence tout de suite avec la citation de la semaine et je vais vous faire deviner qui a dit ça. Alors je cite, nous avons besoin d'unité, d'être soudés face à la crise, de solutions, pas d'une confrontation qui mette le pays à feu à sang. Mieux vaut ça plutôt qu'un blocage du pays avec manif, grève et compagnie. N'ayons pas peur du débat. Qui a dit ça, à votre avis ?
Quelqu'un de droite, non ?
Eh bien, c'est Fabien Roussel, figurez-vous, le dirigeant du Parti communiste français. Voilà, alors, on n'est pas à une trahison près avec lui, mais il s'est encore illustré cette semaine. Et on enchaîne tout de suite avec l'actualité internationale. On va du côté d'une grève à venir des infirmières au Royaume-Uni.
Absolument, on traverse la Manche. En effet, au Royaume-Uni, une grève des infirmières est prévue les 15 et 20 décembre. Leur salaire réel a baissé de 20% depuis 2010, donc en 12 ans. Cela montre bien la gravité de la crise sociale au Royaume-Uni. La secrétaire générale du syndicat Royal College of Nurses, Pat Cullen, déclare que les infirmières en ont assez. Assez des bas salaires, assez de ne pas pouvoir donner aux patients et patientes les soins qu'elles méritent. Cette négociation de grève inédite dans l'histoire de ce syndicat créé il y a 106 ans fait suite au rejet des négociations de la part du gouvernement britannique. Une infirmière qui travaille dans un hôpital londonien et qui a voté la grève déclare « On est épuisé, on en a marre, on a besoin d'une augmentation pour vivre ». En effet, un hôpital sur quatre a mis en place des banques alimentaires pour soutenir le personnel, selon la NHS Providers, qui représente les groupes hospitaliers en Angleterre. Mais dans ces métiers du care, généralement mal payés comme on le sait bien, ce n'est pas si facile de faire grève. Ainsi, des infirmières s'opposent à la grève, craignant que la mobilisation nuise aux patients et patientes. Même si, comme le rappelle une infirmière, c'est le gouvernement britannique qui joue avec la santé des patients et patientes en n'augmentant pas les salaires. Cette grève survient alors que le système de santé publique britannique est sous-financé depuis des années et est plongé dans une grave crise. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose en France ? Je crois bien.
Oui, d'ailleurs, il y a une grève des infirmières de la clinique du Parc qui va arriver dans les jours qui viennent, qui demande aussi des augmentations de salaire. Mais toujours à l'international, on va du côté du Pérou, puisque mercredi dernier, le président péruvien de gauche, Pedro Castillo, était destitué pour fait de corruption au profit de la vice-présidente de droite, Dina Boluarte. Alors, ce coup d'État institutionnel qui a été donc orchestré par la droite et l'extrême droite fait suite à une crise politique qui dure depuis l'élection de Castillo. Pour rappel, il avait été élu en juillet 2021 face à Keiko Fujimori, vous savez, la fille de l'ancien président libéral et particulièrement autoritaire Alberto Fujimori. Alors, Castillo, bien que de gauche, a énormément déçu sa base électorale depuis qu'il est au pouvoir, hein, en adoptant des positions de plus en plus droitières. En fait, il a signé lui-même sa propre destitution en annonçant mercredi dernier la dissolution du Congrès, puisque immédiatement après l'avoir fait, c'est le Congrès lui-même qui l'a destitué, puis placé en détention. Depuis mercredi dernier, il y a des milliers de Péruviens qui ont pris la rue pour dénoncer ce coup d'État institutionnel, notamment ce dimanche devant le Congrès à Lima. Hier, deux personnes sont mortes et cinq personnes au moins ont été blessées. Il y a des syndicats agraires et des organisations paysannes et indigènes qui appellent donc à une grève indéfinie à partir de mardi, donc de demain, pour rejeter le Congrès et demander des élections anticipées ainsi qu'une nouvelle constitution. On fera vite le point sur la situation aux infos par ici. Et sans transition, on passe tout de suite à l'actualité nationale avec un petit sujet sportif, une fois n'est pas coutume.
Oui, une rubrique sport. Bon, c'est vrai qu'avec l'actu, c'était difficile de faire l'impasse dessus. La performance des équipes, et un suspense jusqu'à la dernière minute des rencontres choc. Bien sûr, je parle du championnat de France de roller derby. Le 4 décembre dernier, l'équipe de Lyon affrontait celle de Grenoble. On était sur place et on écoute tout de suite un reportage.
Bonjour, moi c'est Maudie, je suis jameuse dans l'équipe des Fossoyeuses à Lyon et je suis co-représentante de la Ligue Lyon United Roller Derby. Donc on est au gymnase de la Duchère à Lyon et du coup c'était le championnat de France de roller derby. En fait c'est par zone, donc là on a la zone numéro 3 qui s'affrontait, c'est un championnat national. Donc là on avait Toulouse, Montpellier, Grenoble, Lyon. Et l'idée du championnat, en fait, il se fait en deux étapes. Et là, la première étape, c'est d'essayer de marquer des points tout de suite et de sécuriser sa place dans le championnat de National 1. Le principe du roller derby, c'est que, déjà par rapport aux autres sports, il y a attaque et défense en même temps. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on a une joueuse qui a une étoile sur le casque, qui est la jameuse, qui doit passer un mur adverse. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y a, il y a quatre joueuses qui vont l'empêcher de passer, qui vont être en défense. Et cette joueuse-là va marquer des points, non pas avec un ballon, mais avec son propre corps qu'elle utilise pour passer et se faufiler dans le mur.
Nous avons donc Kachasa pour Grenoble qui s'élance dans le bac. Et suivi de Maudit qui prend de l'avance. Qui fonce. Un bac qui est compact. Dur à passer pour les deux demi.
Et voilà, il y a plein de gens quand ils regardent comme ça, au niveau comme c'est un sport de contact, ils ont l'impression de revoir un peu le rugby, donc sans les plaquages, etc. Mais c'est vrai qu'on va à l'affrontement. Mais sinon, voilà, c'est vraiment notre corps qui est notre outil. Et il y a attaque en défense en même temps. Donc pour les spectateurs et spectatrices, pour les premières fois, c'est un peu difficile à comprendre. C'est pas un sport qui est très accessible. Autant il est accessible pour la pratique sportive, autant pour le public, c'est un peu difficile au début.
C'est une défense solide des deux côtés. Rien ne passe pour le moment, c'est merveilleux. Et Yukunene qui prend le lead. Premier minute du match. C'est un start pass de la part de Grenoble. Et c'est la fin de ce match. Incroyable match. On va applaudir les Fossoyeuses.
On avait plus de 200 points et l'équipe de Grenoble en avait 79, quelque chose comme ça. Et donc, ça s'est très bien passé pour nous. On était très contents et contentes d'affronter Grenoble. Il y a une ambiance très cool avec Grenoble sur le track. Des petites chorales, des petites chorées, la danse et tout ça, au-delà du sport. Et c'était très, très cool à faire. Le roller derby, pour moi, ça a été le moyen de faire un sport d'équipe où je savais que j'allais pouvoir me retrouver dans les valeurs du sport. C'est très difficile de trouver un sport où on sait que les minorités de genre vont pouvoir avoir leur place. Et puis, surtout, un sport où on peut faire de la compétition alors qu'on commence le patin à 25-30 ans. Et c'est possible d'être en compétition à haut niveau, même si ce n'est pas un sport professionnel, en n'ayant pas fait de sport avant, à part des cours de PS au collège et au lycée. Donc, c'est moi un sport qui est en tout cas important pour ça. Après, à Lyon, c'est les joueurs et joueuses et les joueuses qui font la ligue. Donc on est obligé d'avoir une grosse force bénévole pour pouvoir exister. Là, c'est les bénévoles qui, aujourd'hui, permettent à ce que l'event se fasse. C'est des gens qui sont dans les équipes inférieures, qui aident du coup à la mise en place du championnat. Et c'est dans l'autre sens, quand on a un autre championnat de niveau inférieur, c'est toutes les autres équipes aussi qui vont se mobiliser et faire vivre le truc. Et pareil, nos coachs, ce sont des joueuses. Et donc il y a cette idée de faire tout nous-mêmes et de prendre en main en gros notre sport parce qu'on n'a pas forcément les infrastructures ni les moyens aussi de faire autrement.
Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de bruit pour les référés qui sont sur le track ? Merci. Et puis pour la buvette aussi, parce que la buvette et les bières, hein.
Et après, pour tout ce qui est inclusion, questions politiques, on a le pôle droits fondamentaux à Lyon qui s'assure que tout se passe bien dans la Ligue. On a des espaces en non-mixité choisis. Et donc, dans ces équipes en non-mixité choisies, on peut avoir des mecs trans, des personnes non-binaires, des femmes trans, des femmes cis. Et en fait, tout le monde se retrouve comme ça dans ce collectif. Et c'est autorisé de faire le championnat en ayant ces personnes-là dans nos collectifs. Il y a un championnat, on va dire masculin entre guillemets, qui existe. En gros, c'est un championnat dans lequel il y a des hommes cis qui sont pas inclus, nous, dans le championnat qu'il y avait aujourd'hui. Et ces hommes cis peuvent être complétés par des femmes, des personnes non binaires. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on a la non-mixité, qui est le championnat, on va dire, qu'on appellerait féminin normalement, et la mixité qui va être le championnat dit masculin normalement dans les autres sports. Mais nous, on n'a pas cette frontière-là. Et du coup, ça permet à plein de gens de pouvoir choisir dans quel collectif est-ce qu'ils veulent évoluer. Du coup, l'équipe de Lyon, nous, on a trois équipes en non-mixité choisies. Donc, on a les Fossoyeuses qui sont l'équipe A, les Gorgones qui sont l'équipe B et les Bugneuses qui sont l'équipe C. On a les Lumières qui est l'équipe mixte de Lyon. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle les Fraîches qui sont les personnes qui apprennent à patiner pour après pouvoir monter en équipe. On est beaucoup, on est plus de 120. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir des espaces un peu pour tout le monde pour développer ses capacités sportives. On a aussi des arbitres qui sont des personnes du coup qui sont entièrement bénévoles et qui se déplacent avec nous pour nous permettre de faire des matchs. Et donc voilà, à Lyon, on a des recrutements qui se passent à chaque fois au début septembre. Et tout le monde est le bienvenu l'été parce qu'on fait ce qu'on appelle un summer camp. On se met sur une place publique à la Altony Garnier et tout le monde vient apprendre à patiner. Il n'y a pas de conditions de paiement ni de niveau. Et on, voilà, gratuitement, bénévolement, on met ça en place pour apprendre aux gens à patiner. Il y en a plein qui veulent pas forcément faire du derby après, mais ont envie d'essayer et de voir ce que ça donne. Et voilà, c'est la bonne ambiance et la découverte.
Allez, Marie! Merci, Charlie, merci d'avoir été venu sur l'événement. Et on espère que vous avez passé un bon moment avec quelqu'un qui a perdu son protégé.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h18, vous écoutez le Canu Info en mixité choisie, tous les deuxièmes lundis du mois. Il y en a un qui n'a pas perdu son protège dans, c'est Darmanin. On parle tout de suite de lui au national.
Et oui, il est partout. Et donc, pour rappel, demain, mardi 13 décembre, se tiendra à la Cour d'appel de Paris l'examen de l'appel de Sophie Patterson-Spatz. Elle s'oppose au non-lieu prononcé suite à l'accusation de viol par Gérard Darmanin. Donc, pour rappel, elle accuse Gérard Darmanin de viol pour des faits produits à Paris en 2009 lors d'une soirée. Elle portera plainte en 2017 et l'affaire sera révélée dans les médias en janvier 2018. Après plusieurs non-lieux, Sophie Patterson-Spatz fait appel de la décision de justice de juillet dernier. Quant à lui, Darmanin porte plainte contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse. Rappelons aussi qu'elle n'a pas été la seule à porter plainte contre lui. Une autre personne l'accuse d'abus de faiblesse. En effet, elle l'accuse de relations sexuelles sous contrainte en échange de faveurs. Cette accusation sera classée sans suite en 2018. Cela témoigne encore une fois d'une justice qui est en faveur de la culture du viol et des violeurs et qui remet toujours en cause la parole des victimes.
Et Darmanin, toujours au National, hein, qui persiste et signe pour la répression des Corses, puisqu'après un premier coup de filet le 1er décembre, 8 militants de l'organisation Corsica Libera ont été interpellés lundi dernier. Donc il y a pas mal de militants nationalistes qui ont essayé d'empêcher les arrestations, mais sans succès. Ils ont donc été arrêtés dans le cadre d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroristes. Darmanin, en fait, s'inquiète du retour à la lutte armée du FLN suite à une conférence de presse clandestine de l'organisation ainsi qu'à l'attaque de plusieurs résidences secondaires sur l'île de Beauté, donc des résidences secondaires de personnes qui vivent dans l'Hexagone. Ces interpellations ont évidemment suscité la colère des Corses. Des manifestations ont eu lieu la semaine dernière pour soutenir les inculpés. Darmanin, encore lui, devait se rendre la semaine dernière sur l'île de Beauté et n'écoutant que son courage, il a donc décidé d'annuler sa venue. Les interpellés sont donc maintenant poursuivis, donc pour la plupart pour acquisition et détention non autorisée d'armes de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour refus de communication ou de mise en œuvre d'une clé de chiffrement. Deux d'entre eux ont été placés en détention en l'attente de leur procès. Après l'assassinat d'Ivan Colonna en prison en mars dernier, l'État français continue sa politique répressive envers les indépendantistes corses.
Puis bon, bah c'est fini hein, de Darmanin, on va plutôt vous parler des camarades. Ça met quand même un peu plus de joie. Et notamment samedi dernier, 10 décembre à 18h, 200 personnes ont envahi et désarmé par surprise l'usine Lafarge de la Malle. Ça, c'est à Bourg-Bel-Air, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Dans une ambiance déterminée et joyeuse, l'infrastructure de l'usine du cimentier pollueur a été attaquée par tous les moyens. Sabotage de l'incinérateur et de dispositifs électriques, câbles sectionnés, sacs de ciment éventrés, véhicules et engins de chantier endommagés, vitrines des bureaux abîmées, murs repeints de tags. Alors, Lafarge Holcim, c'est quand même l'un des plus gros pollueurs et producteurs de CO2 du pays. Visée par plusieurs procédures judiciaires antiterroristes, la multinationale cherche systématiquement à étouffer les attaques qui lui sont faites. Ici, à Bourg-Bel-Air, les fours qui ont été ciblés, longuement alimentés par des déchets industriels et de pneus, sont aujourd'hui le symbole du greenwashing. La pollution atmosphérique est considérable et a été maintes fois dénoncée par toute la presse et les riverains et les riveraines. Pour autant, les cheminées crachent toujours leur venin. Eh bien, bravo pour cette action et on espère qu'elles se multiplieront.
Et pour une fois, on continue un petit peu dans les bonnes nouvelles, puisque mardi dernier, les salariés de 9 sites du sous-traitant aéronautique AAAA, se sont mis en grève pour obtenir une prime de partage de la valeur. Et après seulement 2 jours de mobilisation, ils ont obtenu 500 euros de prime et le paiement des jours de grève. Mais les grévistes l'annoncent d'ores et déjà, il ne s'agit que d'une première étape avant les NAO, les négociations annuelles obligatoires, mais surtout avant une coordination plus grande des salariés de l'aéronautique pour obtenir de réelles augmentations de salaire. On ne peut que les encourager.
Et maintenant, une mauvaise nouvelle, je vais vous parler de personnes qu'on ne voit pas et dont on parle rarement, ce sont des détenus. Je vais vous lire le 3e communiqué de presse des détenus du quartier de semi-liberté de Rennes. En effet, depuis le 23 novembre, il n'y a toujours pas d'eau au quartier de semi-liberté, à la prison des femmes et au quartier de prise en charge de la radicalisation. Suite à certaines annonces, ils démentent. Le 11 décembre, la situation n'est toujours pas résolue. Depuis 3 semaines, c'est-à-dire depuis le 23 novembre 2022, nous n'avons plus d'accès à l'eau courante. Nous n'avons plus de douche, plus de chasse d'eau, ni de moyens de faire la vaisselle, etc. Mardi 6 décembre, il y a eu de nouveaux tests et en est ressorti que l'on ne doit toujours pas utiliser l'eau, alors que le dimanche d'avant, on nous a dit que tout était revenu à la normale. Les surveillants du quartier de semi-liberté n'ont pas l'air de savoir vraiment la cause du problème. Nous avons à plusieurs reprises demandé des explications sans aucune réponse. On ne nous informe pas des résultats des tests qui sont faits, on nous interdit seulement d'utiliser l'eau. Nous devions rencontrer la direction, qui ne s'est pas déplacée et à ce jour, nous sommes sans nouvelles. Or, nous souhaiterions la rencontrer. On a le sentiment de ne pas être considérés et que l'on se moque de nous. Nous avons demandé aux surveillants si c'est toujours la même chose pour les femmes. Sa réponse, oui, c'est pareil. Alors qu'apparemment l'administration a déclaré à l'Observatoire international des prisons que le problème était résolu, aussi bien à la maison d'arrêt des femmes qu'au quartier de semi-liberté. il n'est pas résolu. On leur a dit que les bouteilles... On leur a dit que les bouteilles d'eau n'étaient plus distribuées, car cela n'avait plus lieu d'être. Pourtant, on n'a toujours pas d'accès à l'eau, toujours pas de douche ni de toilette, et on nous donne toujours des bouteilles d'eau. Il y en a qui, depuis 3 semaines, ont pris moins d'une dizaine de douches. Alors non, ici, la situation n'est pas résolue et toujours pas de retour à la normale. Dans le West France, article publié le 6 décembre, il est affirmé que la situation va durer des semaines. Ici, on nous dit aussi que cela va durer encore 2 semaines. Étant donné la situation et les conditions de détention indignes, nous souhaiterions avoir des réductions de peine exceptionnelles pour des raisons sanitaires, que les autorités compétentes rénovent le bâtiment. Nous ne sommes pas informés et ce n'est pas normal non plus. Les détenus concluent leur communiqué en déclarant « On souhaite aussi affirmer notre solidarité avec les femmes enfermées. Et nous aussi, au CNews Info, nous sommes solidaires avec toutes les personnes en détention. »
Et que crève la tôle, et on passe tout de suite à l'actualité locale. On commence immédiatement avec un petit reportage pour le rassemblement des grévistes du nettoyage de Perrache, dont on a déjà longuement parlé ici, mais qui était réuni ce mercredi, donc devant l'hôtel de ville. On les écoute.
Bonsoir à tous. Déjà, on va commencer par un énorme merci pour tous les soutiens qui se sont déplacés ce soir. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Je ne vais pas m'étaler, vous le savez tous. La métropole de Lyon n'hésite pas cette année à mettre sur le carreau 22 salariés du nettoyage qui bossent pour elle depuis plus de 30 ans sur le site de la gare de Lyon-Perrache. Elle le fait sous prétexte d'insertion, puisqu'elle a restreint son appel d'offres à des entreprises d'insertion et elle a ainsi privé les salariés qui travaillent sur le site de la reprise de leur contrat de travail. Le patron l'a annoncé dès le début de la grève pour les salariés, pour les 22 salariés qui sont en CDI à temps plein, encore une fois, depuis des années et des années sur ce site. C'est des licenciements économiques qui se profilent. La semaine prochaine, le CSE est convoqué pour négocier un plan social. Donc là, on rentre dans le dur. Et clairement, au 1er janvier, s'il ne se passe rien du côté de la métropole, les salariés seront au Pôle emploi. Voilà où on en est de cette métropole qui, depuis 8 semaines de grève, refuse de parler, refuse de prendre ses responsabilités. La semaine dernière, elle a monté d'un cran dans l'ignominie en envoyant une boîte remplacer les grévistes. Donc dans un premier temps, elle casse des emplois et après, elle casse la grève. C'est ça Bruno Bernard qui nous envoie une boîte remplacer les grévistes pour nettoyer la gare sous escorte policière. Pourquoi ? Parce que la saison touristique s'ouvre, parce qu'il y a le 8 décembre demain, et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui pour inaugurer le 8 décembre. Et pour dire à la métropole de Lyon que son 8 décembre pue la casse sociale et qu'on ne laissera pas faire.
Bruno Bernard, briseur de grève. Bruno Bernard, briseur de grève. Bruno Bernard.
Je suis Ribgo Abdrahim, je suis le délégué syndical de CGT. Je travaille avec l'arc-en-ciel au centre d'échange à Perrache. On est à Hôtel de Ville, on manifestait avec tous les l'intersyndical, il y a tous les syndicats qui manifestent avec des partis politiques qui nous soutiennent ici. On fait entendre notre voix à tout le monde pour savoir qu'on est 22 salariés au centre d'échange Perrache, on va être licenciés à la fin d'année.
Ça fait combien de jours que vous êtes en grève maintenant?
Depuis le 10 octobre qu'on est en grève, bientôt 2 mois.
Et là récemment, la métropole, qu'est-ce qu'elle a fait pour essayer de casser la grève?
La métropole, elle a essayé de ramener une société privée de la propreté pour casser la grève. Ils ont commencé à nettoyer, malgré on a fait le service minimum. Normalement, ils n'ont pas le droit de ramener une société privée parce qu'on fait le service minimum.
Et là, vous êtes encore nombreux à être grévistes, vous êtes toujours déterminés à continuer le mouvement?
On est toujours sur la même situation. On se bat toujours jusqu'à la fin d'année. On n'a pas de solution parce qu'ils vont nous mettre à la CIDIC à la fin d'année. On n'a pas trop le choix.
Eh ben, merci beaucoup et bon courage pour la lutte.
Merci bien, merci.
Les salariés qu'il faut virer, c'est la métropole qui doit céder. C'est pas les salariés qu'il faut virer, c'est la métropole qui doit céder. C'est pas les salariés qu'il faut virer, c'est la métropole qui doit céder.
Et on espère de tout cœur que la métropole va céder. Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h28. Vous écoutez le Canu Info en mixité choisie sans Mexis. Après 3 semaines en mixité subie, ça fait toujours plaisir. Et on continue tout de suite au local avec un petit sujet sur la fête des Lumières qui a bien occupé les Lyonnais ce week-end.
Oui, parce que lumière rime avec colère. On vous propose un petit retour en arrière, non exhaustif, des actions à Lyon pendant la fête des Lumières avec des archives de Radio Canu.
Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 FM, l'émission La Petite Cuillère. Et oui, il y a des gens dehors qu'on n'ont pas rien à foutre. C'était un slogan qui avait été crié pendant une manif du 8 décembre où traditionnellement à Lyon, des personnes allaient devant les prisons et allaient dire leur solidarité et que les gens n'étaient pas oubliés à l'intérieur des tôles.
9 décembre 2004, dans le 20 minutes. À chacun son 8 décembre. Pour l'association des familles en lutte contre l'insécurité et les décès en détention, c'est depuis 5 ans l'occasion de mettre son combat sur la place publique. Des dizaines de membres ont donc manifesté hier à Lyon devant le palais de justice, puis devant les prisons de Perrache. Avec le même credo accroché aux lèvres, faire la lumière sur les morts en prison. 1er décembre 2008, communiqué de presse de l'association Faites la lumière en détention. 10e année où les familles victimes de la perte d'un proche en détention manifesteront le 8 décembre. 8 décembre 2011, rue 89. Comme chaque année pour la fête des Lumières, plusieurs organisations engagées contre la prison, dont l'association Faites la Lumière en détention, appellent à un rassemblement ce jeudi soir à 19h devant la maison d'arrêt de Lyon à Corba.
Découvrir cette manifestation du 8 décembre, c'est un peu cette colère, cette joie, parce que du coup il y a les prisonniers qui criaient derrière tout le monde, un peu c'est un gros mouvement de protestation, d'énervement et tout ça. De dire l'abolition des prisons, c'est un système de merde, on n'en veut pas, et du coup moi ça a été vachement fondateur pour moi.
La petite cuillère, émission contre toutes les prisons.
Salut, vous êtes bien sur Radio Canu en direct du périmètre sécurité de la fête des Lumières. On est entouré de policiers ici, on est à côté de la place Satonnet et c'est parti pour le Canu Info du vendredi.
On ouvre les sacs s'il vous plaît.
Pour la fête des Lumières, on distribue des billes.
Ah oui, par exemple, moi j'étais super content, j'ai vu des tags avec un petit cocktail Molotov dessiné et marqué Fête des Lumières. Mais attention, petit jeu de mots orthographique, Fête, F-A-I-T-E-S.
Il y a de la place au côté gauche, on avance, s'il vous plaît.
2018.
Au local, on parlera de nouveau des Gilets jaunes et de Colomb qui a sauvé sa belle Fête des Lumières.
Au pied de la grande roue, le bleu des gyrophares.
Vous avez perdu pas.
Vers 18h, la place Bellecour retrouve un peu de sérénité. Quelques individus tentent bien d'en découdre encore avec les forces de l'ordre, mais cela n'a plus rien à voir avec les heures de l'après-midi.
Non mais du coup, voilà, ça a été une grosse mobilisation.
Dans une ambiance très bizarre, puisque toute trace de cette manifestation très mobile qui a bougé entre l'hôtel de ville et la place Bellecour était presque immédiatement effacée, alors que dans une rue pouvait être gazée 5 minutes après, plus aucun manifestant, plus aucune odeur de gazage, et justement des touristes qui arrivaient en flot et qui continuaient de vivre leur vie malgré la manifestation.
Ce soir, effectivement, on a décidé, une bonne partie du membre du collectif Jamais Sans Toi, de profiter de la fête des Lumières et de profiter de ces presque 2 millions de touristes qui vont déambuler dans les rues pour rappeler à notre chère maire que malgré effectivement les lumières sur la ville, il y a des zones d'ombre
Depuis la mi-novembre, on a à nouveau des familles qui dorment à la rue, malgré le plan grand froid. Donc, à une dizaine de personnes, on a donc fabriqué des banderoles. Et puis, nous les avons disposées tout autour, en fait, là où sont les illuminations, et en particulier autour de la mairie centrale.
Et alors, en 2022, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, on a vu une banderole se déployer sur le McDo de la Guillotière, où on pouvait lire « Lumière sur les violences policières ». Ça nous rappelle qu'en 2020, les manifs contre la loi de sécurité globale s'étaient également émissés pendant la fête des Lumières. Ce samedi, donc en 2022, Extinction Rébellion s'est incrustée au spectacle en projetant « Ultra riche égale ultra pollueur » sur la cathédrale Saint-Jean. Et sur le centre commercial de La Part-Dieu, Médecins du Monde ont projeté « Faites la lumière sur les mal logés », environ 2900 personnes sont sans solution d'hébergement à Lyon.
Et oui, toujours beaucoup trop de personnes sans solution de logement ou d'hébergement, notamment des familles. On est donc allé au rassemblement du collectif Jamais sans toi, qui organisait un rassemblement ce jeudi 8 décembre devant l'hôtel de Villeurbanne. Une délégation a également été reçue pendant le rassemblement. On écoute les personnes présentes.
On est rassemblés parce que beaucoup d'écoles sur Lyon et sur Villeurbanne accueillent des familles sans toit.
On est à Villeurbanne devant la mairie et il y a un rassemblement avec des gens qui posent des bougies. Il y a pas mal de monde, des enfants, et c'est sympa et c'est le 8 décembre, mais peut-être que c'est pas forcément que pour le 8 décembre.
Alors, ce soir, on est réunis à l'initiative de Jamais sans mon toit, une association qui s'occupe des enfants scolarisés et qui sont sans domicile fixe avec leurs parents. Et ils sont là pour interpeller la mairie sur ces situations qui sont assez dramatiques, surtout avec ce grand froid. Et donc, tout le monde a ramené des luminons pour marquer un message au sol et interpeller nos politiques sur cette situation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 60 enfants sans domicile fixe scolarisés à Villeurbanne.
On est enseignantes, toutes les deux, dans une école élémentaire sur Villeurbanne. Et on est là pour soutenir les écoles occupées parce qu'il y a des enfants qui dorment dans la rue. Notamment, on héberge une famille dans l'école depuis le 11 novembre.
On est dans le collectif Jamais sans toi depuis plusieurs années. Moi, depuis 5 ans, je pense, 5-6 ans. On est régulièrement touché par les questions de sans-abrisme pour nos élèves à l'école. On a eu une petite parenthèse pendant le Covid où il y a eu pas mal d'hébergements débloqués. Et à nouveau ça redémarre. Et cette famille est scolarisée chez nous depuis septembre. Il nous a fallu bien le mois de septembre pour comprendre leur situation et découvrir qu'ils étaient sous la tente avec deux enfants. Pendant les vacances d'octobre, on s'est dit que c'était plus possible, qu'il fallait vraiment qu'on trouve une solution. Et dès la rentrée, on s'est mis en œuvre pour trouver des solutions. Ils avaient déjà fait leur signalement auprès des institutions, la MVS, le 115 étaient au courant de la situation. Donc on les a accompagnés pour finir leur démarche administrative et puis sans solution proposée, on a ouvert l'école pour eux. On est une dizaine dans l'équipe à être un peu plus engagée, mais toute l'école est OK avec ça. Toute l'école soutient l'idée d'accompagner cette famille pour un peu plus de confort.
On attend quand même qu'ils aient un hébergement, vu que c'est ce qui avait été dit, qu'il y aurait un hébergement qui leur serait donné. Et pour le moment, il ne se passe rien. Donc en fait, on est dans l'urgence. Pour le moment, on les garde dans l'école parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Sinon, ils retournent en temps.
Et la préfecture, quand elle a reçu Jamais sans toi en audience, a dit il y a des places, il y aura des places. On va faire en sorte que les écoles occupées soient prioritaires sur l'hébergement d'urgence. Sauf que c'était il y a presque 4 semaines et que rien n'a changé depuis.
Oui, dans les faits, ça c'est pas satisfaisant parce que le nombre d'enfants qui est à la rue et qui grossit, si on compte aussi les adultes qui les accompagnent, il est juste énorme. Et non, en fait, il faudrait un logement pour toutes ces personnes. Et si on respectait les droits de l'enfant, il y aurait un logement pour tous ces enfants et c'est pas le cas du tout.
C'est le 8 décembre, c'est la fête des Lumières à Lyon, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un moment festif pour tout le monde, parce qu'il y a encore beaucoup de précarité, beaucoup de personnes pour qui le 8 décembre, c'est un jour comme n'importe lequel. Et puis donc nous, on a voulu le mettre en lumière aussi pour mettre en lumière les personnes qui sont dans cette grande précarité. Et puis pour à nouveau faire entendre leur voix et que la mobilisation ne cesse pas jusqu'à ce que les solutions soient trouvées pour tous et toutes. Les petits lumignons forment 4 mots. C'est marqué pas d'enfant sans toi.
Je suis animateur périscolaire à l'école Louis Armand au Tonkin. Car récemment, il y avait une famille à la rue dans mon école. Là, ils ont été hébergés il y a pas longtemps, mais voilà quoi. Ça fait que jusqu'à très récemment, un des enfants de l'école, bah, quand il n'était pas à l'école, il faisait la manche avec ses parents, quoi, et il dormait à la rue. Dans le secteur du Tonkin, en fait, je crois qu'on est la seule école à plus avoir de famille à la rue. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous, mais qui du coup accentue encore plus le fait que, on va finir par occuper toutes les écoles de Lyon, Villeurbanne et tout, parce que j'ai déjà travaillé dans 3 écoles et ça fait 3 écoles que à chaque fois il y a des familles à la rue, et c'est dans le cinquième, c'est dans le premier, c'est dans le troisième, c'est ici, c'est assez catastrophique quoi.
Et j'ai 6 ans ici en France. J'ai une première année, je reste dans le foyer, et 5 ans, je reste dans le squat. Et 5 ans, je ne prends pas un hébergement. Maintenant, j'ai 6 ans en France, et maintenant, pour l'instant, je dors à l'école. Et j'ai besoin beaucoup pour un hébergement parce que j'ai 3 enfants qui sont scolarisés à l'école QC, Ernesto Enona, et aussi 2 parents malades. J'ai une petite fille, 15 mois, qui c'est très très difficile pour rester à dehors avec les 3 enfants petits et 2 parents malades. Pas d'enfants sans toi. C'est une titre qui est très très importante pour tout le monde. Je veux dire, je ne sais pas si le mairie ou la préfecture m'écoute pour trouver un hébergement. Et c'est tout.
Toujours sur le Canus Info en mixité choisie. Et comme je l'ai dit pour introduire le reportage, une délégation a été reçue par la mairie de Villeurbanne. 5 personnes étaient présentes, représentant 5 écoles occupées, l'école Renan, Jean Zé, Nigritel Noir, Camus et Anatole France. Reçue donc par Mathieu Garabédian, adjoint à Solidarité, Sonia Tron, adjointe à l'éducation, et Antoine Pelcé, conseiller municipal sur les questions d'habitat et de sans-abrisme. Donc cette délégation a permis de faire le point sur chacune des situations des écoles occupées et sur la situation globale de Villeurbanne. Pour rappel, sur la métropole, 292 enfants et 117 familles sans toit, et sur Villeurbanne, 80 enfants et 30 familles. La question, c'était aussi de savoir ce qu'il allait se passer des personnes et de l'occupation pendant les vacances scolaires. La ville de Villeurbanne a informé qu'elle était en train d'essayer de négocier auprès de la préfecture pour mettre à disposition un lieu et organiser la mise à l'abri des familles qui dorment dans les écoles pendant les vacances scolaires. Les négociations sont donc toujours en cours pour que des places soient ouvertes dans le cadre du plan Grand Froid qui permettrait de débloquer des moyens financiers. Mais à une semaine des vacances, aucune garantie. Et même si ça se fait, cela reste un hébergement ponctuel dans des conditions précaires, montrant les limites d'une gestion de l'hébergement au thermomètre. Derrière l'annonce de la fin de la gestion au thermomètre de l'hébergement, il n'y a donc pas d'autre solution proposée pour permettre la mise à l'abri en urgence des personnes.
Et on continue tout de suite avec notre dossier de la semaine, et on va tout de suite écouter un petit extrait pour l'introduire.
Il Il y a le même échelon d'exploitation pareil, parce que l'ouvrier qui est en bas chez Berlier, il est exploité par 150 personnes avant d'arriver en haut. Alors, de toute manière, l'exploitation n'est pas exclusive à la prostitution. Ouais. L'exploitation, c'est une exploitation de la société, c'est pas une exploitation de la prostitution. Moi, de toute manière, je dénonce complètement ce matraquage de la fille sous prétexte que c'est pour atteindre la proxénète, c'est pas vrai. L'État se donne bonne conscience pour matraquer les prostituées, de dire que c'est pour avoir les proxénètes. Et c'est tout. Bah, on est tous d'accord, non, les gens ne comprennent pas dehors. Non. Et les gens devraient comprendre que si un jour on nous trouve bras dessus avec un mec, bon, c'est pas parce que c'est un proxénète, c'est parce que c'est un gars qui nous plaît. Peut-être que demain il nous plaira plus. Ouais, ça, tant pis pour lui. Hein. Ouais, mais de toute façon, c'est parce qu'il nous plaît, un point, c'est tout. Maintenant, c'est évident que si ce gars il gagne 200 000 balles par mois, que moi j'en gagne 300 000, si on met notre canette en commun, c'est évident qu'automatiquement il va profiter plus ou moins de l'argent que j'aurais gagné. Mais moi, de toute façon, toutes les bonnes femmes qui sont mariées, qui foutent rien chez elles, qui sont chez elles à rien foutre, tant mieux pour elles. C'est une politique qu'ils ont discuté ensemble entre couples, mais que le bonhomme travaille et ramène de l'argent. De toute façon, moi je connais des personnes mariées, légitimement, les gens honnêtes, dont le bonhomme n'a jamais rien foutu de sa vie parce qu'il n'a pas envie de travailler. La bonne femme a travaillé, bon, mais c'est d'aller dans le ménage. On ne pose jamais de questions pour savoir comment ça se fait que le brave homme ne travaille pas, du moment qu'elle fait un travail honorable. Alors je suis désolée, la prostitution n'est peut-être pas honorable, mais c'est quand même un travail et un métier. Et de toute façon, l'honorabilité, on sait ce que ça vaut, on se demande où elle commence et où elle finit.
Ouais, c'est sûr.
On vient d'entendre un extrait de Les prostituées de Lyon parlent. C'est un documentaire qui a été fait en 1975 par Carole Roussopoulos. Et c'est notamment autour de la mobilisation et de l'occupation de l'église Saint-Nizier par plus de 200 femmes prostituées pour revendiquer leurs droits. Et de 1975 à aujourd'hui, les mobilisations autour du travail du sexe continuent et continuent notamment à Lyon. On a la chance ce soir d'avoir avec nous dans les studios des personnes qui participent à l'association Kabiria. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, pour commencer, est-ce que vous voulez nous présenter rapidement qu'est-ce que Kabiria et peut-être vous, qu'est-ce que vous y faites à l'intérieur de cette structure ?
Alors, moi, je m'appelle Guillaume. Et l'association Kabiria, c'est une association de santé communautaire par et pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. C'est une association qui est née en 1995. Suite à une recherche-action qui avait été lancée par l'Amicale du Nid. Pourquoi est-ce que cette recherche-action avait été lancée ? Parce qu'en fait, à l'époque, l'Amicale du Nid s'était rendu compte qu'elle avait perdu le lien avec les travailleuses du sexe. Elle ne venait plus à leur rencontre. Et donc, ils ont demandé une étude sociologique pour savoir pourquoi est-ce que les travailleurs du sexe ne se présentaient plus auprès de leur association. Et dans cette étude qui est à l'origine de Kabiria, Kabiria n'est pas née par... c'est pas une association qui est issue du militantisme, c'est une association qui est issue de la recherche en réalité. Et cette recherche, elle a permis de montrer que la raison pour laquelle les prostituées ne venaient plus auprès de l'Amicale du Nid, c'était parce qu'il n'y avait pas de travailleurs pairs. Les travailleurs du sexe n'étaient pas au centre de l'action pour dire comment ça devait se passer. Aussi, il faut une absence d'injonction, en fait. L'injonction à l'arrêt, automatiquement, ça exclut beaucoup de travailleuses du sexe et de travailleurs du sexe.
Y a d'autres raisons également. Après, t'as dit la principale, hein, c'est que cette histoire d'injonction en fait a provoqué une rupture du lien avec la communauté en fait. Et une autre raison, c'est que pour l'Amicale du Nid, les travailleuses du sexe n'étaient que des travailleuses et ça ne pouvait pas être des travailleurs. Or, il y avait déjà des travailleurs du sexe à l'époque, mais ça passait complètement sous les radars de l'Amicale du Nid, c'était complètement dans leur angle mort. Et donc, ils répondaient pas à la demande des travailleurs en fait, pour qui pour eux, c'était pas des prostituées. Donc bon. C'est un peu anecdotique, mais du coup, vu qu'on parle de ça, on peut peut-être en parler juste une petite minute. Au départ, l'Amicale du Nid ne demandait pas l'intervention de chercheurs, mais d'étudiants en sciences sociales qui voudraient bien faire un travail pour leurs études, leur mémoire. Et il leur avait déjà un peu préparé un questionnaire. Et première question, êtes-vous un homme, êtes-vous une femme ? Voilà, ça commençait comme ça. Je vais aller vite. Hein. Après la recherche-action, les chercheurs qui ont fait la recherche action n'étaient effectivement pas du milieu militant, mais c'était quand même des chercheurs. Enfin, le chercheur, en, je dirais, principal était un militant quand même. C'était un militant des droits des femmes qui était bénévole au planning familial. Les infirmières qui ont mené l'action au départ expérimentale hein, étaient des militantes aussi. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Et les sociologues qui ont mené l'action avaient deux exigences en fait. C'était que d'abord, s'il y avait une action après la recherche, eh bien, il exigeait que les travailleuses et travailleurs du sexe participent à l'action et ne restent pas de simples bénéficiaires en fait, d'une action. Et l'autre exigence, c'était que cette action, elle soit un peu quand même orientée santé, quoi. Parce que c'était un peu les constats qui s'avaient observés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réponse à l'expansion du VIH. C'était quand même, on était en pleine pandémie de sida à l'époque, et il n'y avait absolument aucune réponse qui était apportée par qui que ce soit d'ailleurs. Il n'y avait même pas de réduction des risques, même pas d'échange de seringues, il y avait beaucoup d'usage de drogue. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, et ça s'est plutôt mal passé avec l'Amicale du Nid, qui était en fait opposée à la dimension communautaire, qui était aussi très peu disposée à mener une action de prévention. Pour eux, ça allait à l'encontre de leur idéologie. Pour eux, distribuer des préservatifs, c'était inciter les gens à se prostituer, en fait. Et donc, c'était pas entendable. Voilà un peu comment tout a commencé, quoi.
Et du coup, ça nous amène à la question suivante. Du coup, que fait Kabiria au quotidien? Comment on s'organise l'association et les...
Alors, donc, à Kabiria, on fait donc des tournées dans la rue pour aller à la rencontre des travailleuses du sexe. On fait de la réduction des risques, donc distribution de matériel de réduction des risques, notamment des préservatifs, du lubrifiant. On fait aussi de l'accès aux droits. On accompagne les personnes dans leurs démarches administratives pour avoir accès à l'assurance maladie, à avoir un compte bancaire, faire un CV, etc. Et puis aussi, on a une action de plaidoyer. Des revendications politiques pour améliorer les conditions de vie matérielles des travailleurs et des travailleuses du sexe, comme on demande par exemple l'abrogation de la loi de pénalisation du client de 2016 et aussi l'abrogation des arrêtés municipaux contre le stationnement des camionnettes dans lesquelles travaillent les travailleuses du sexe. Et donc on a une action donc sur le terrain, on fait des tournées à la rencontre, et aussi une action sur Internet, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses du sexe qui travaillent sur Internet. Et donc moi, mon poste notamment, c'est d'aller contacter les hommes qui travaillent sur Internet pour faire des messages de prévention, leur demander quels sont leurs besoins, et les accompagner dans les démarches s'ils ont besoin d'accompagnement.
Ouais, juste pour compléter un petit peu au niveau des actions qu'on mène sur le terrain. Donc on fait quand même pas mal de tournées régulièrement, voire quasiment tous les jours en fait, le jour, mais aussi la nuit. Et c'est pas des petites tournées, on s'en va quoi. Ça va être des présences sur un territoire comme à Gerland par exemple, qui peuvent durer 8 heures quoi. Donc c'est pas rien, et on fait ça depuis 30 ans quoi. Donc ça nous permet, si parfois on est témoin d'agressions de la part de mecs qui sont passés pour des clients, mais qui sont en fait des vrais agresseurs surtout. Et voilà, on arrive quand même à avoir pas mal de choses de ce que les femmes, les travailleurs, travailleuses, enfin les femmes surtout, subissent, notamment les femmes migrantes. Mais aussi une autre communauté qui est particulièrement attaquée par les agresseurs, c'est les personnes trans aussi. On a aussi tout un travail d'accompagnement juridique. Il y a une avocate qui vient tous les lundis faire une permanence gratuite, qui prend en charge des affaires d'agression. On a aussi témoin parfois des violences d'État en fait, qui sont commises par la police. Quand ils organisent des opérations d'interpellation de masse avec hélicoptères, 50 Robocop, 10 quarts de police qui bouclent une zone, enfin on a déjà vu ça, donc c'est assez fou quoi, mais ça se passe. Voilà, on est aussi témoin des actes de verbalisation de la police qui, comme disait Guilhem, verbalise le stationnement des travailleuses du sexe, surtout à Gerland. Et l'enlèvement des camionnettes, la mise en fourrière. Et des fois, ils combinent tout à la fois, c'est-à-dire l'hélicoptère, la dizaine de camions de police, 50 Robocop, plus 20 une dizaine de plateaux de fourrière, et ils enlèvent comme ça pendant 3 heures toutes les camionnettes. Enfin, on voit aussi ça qui se produit.
Et du coup, aujourd'hui, la politique de la municipalité, c'est toujours une politique répressive et une politique d'abord de répression et de pénalisation des personnes en travail du sexe.
Officiellement, oui.
Il n'y a pas de changement.
Je dirais que pour avoir fait la nuit la semaine dernière, Guilhem aussi, j'en ai parlé à quelques femmes qui me disaient que quand même il y avait beaucoup moins de mise de PV d'enlèvement de camionnettes. Et qu'il y a même une femme qui était contente, qui me disait « Ah mais au moins là la police elle vient, elle arrête les emmerdeurs, les gars qui nous attaquent et tout ». Et c'est pas mal quand même, j'aime bien de le souligner, parce que ça arrive pas très souvent. Mais officiellement, il n'y a pas de changement dans la tendance, quoi. On est quand même toujours là. Voilà, c'est quand même toujours comme ça, quoi.
Et donc, bientôt, c'est le 17 décembre. Donc, c'est une journée qui a été lancée en 2003 en mémoire des travailleurs et travailleuses du sexe assassinés et contre la stigmatisation. Est-ce qu'il y a des choses prévues à Lyon? Et quelles sont vos revendications au niveau du travail, du rapport aux soins?
Donc, effectivement, le 17 décembre, on a prévu de manifester pour nos revendications. Donc, bien sûr, l'abrogation des lois qui nuisent aux travailleurs et aux travailleuses du sexe, donc pénalisation du client et arrêtés municipaux. Pénalisation du client parce que, du coup, les travailleuses du sexe sont contraintes de garantir l'anonymat des clients et ça les pousse à l'extérieur des villes et ça les met dans des situations complexes. Et puis aussi des revendications d'arrêt des violences, puisqu'il y a beaucoup de violences, de stigmatisation que subissent les travailleuses et les travailleurs du sexe, notamment par exemple les travailleuses du sexe trans qui ont subi beaucoup d'agressions au cours des derniers mois. Aussi il y a une vraie difficulté ensuite à porter plainte parce que en général on est assez mal reçu au commissariat, même en étant nous présents pour les accompagner, c'est déjà difficile. Alors si elles y vont seules, c'est vraiment aucune chance d'aboutir, quoi. Mais ça c'est je veux dire, que ce soit pour un viol ou pour une agression, de toute façon c'est compliqué de porter plainte. Voilà.
Et peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est possible de rejoindre Kabiria? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce qu'on peut passer dans vos locaux?
Pas vraiment, vraiment. Nous contacter, c'est possible, hein, sans problème. On a des emails quand même, et vous pouvez nous envoyer un mail. Alors, en fait, on est extrêmement sollicité, en fait, par beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui veulent faire des stages, qui veulent être bénévoles. Alors le bénévole, c'est pas que des étudiantes et des étudiants, c'est plein de gens, parmi lesquels parfois des sauveurs dont on se méfie un peu, mais voilà, on est vraiment très 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 sollicité. Ça arrive beaucoup sur ma boîte mail à moi, du coup je vois les mails arriver, et honnêtement on n'arrive même pas à répondre à tout le monde, hein, tellement on reçoit de mails. Donc, mais c'est quand même possible. On a aussi un téléphone, bien qu'on peut nous appeler.
Mais du coup, est-ce qu'on peut vous soutenir d'une quelconque manière?
Oui, là, par exemple, à l'occasion du 17 décembre, vous pouvez venir avec nous lors du rassemblement. Je pense que ce serait un...
Et il y a des possibilités de faire des dons, peut-être, à l'association?
Il y a des possibilités de faire des dons.
Il y a une cagnotte sur Internet, par rapport aux violences qu'ont subies les travailleurs du sexe.
On la mettra.
Instagram, Kabiria Association.
On mettra tous les liens sur le blog du Canu Info pour que tous les auditeurs puissent faire des dons massivement.
Il y a une cagnotte qui a été lancée au moment du Covid, mais qui est toujours en place, qui sur un site qui s'appelle Hello Asso. Et bah, j'en profite en fait pour merci de me tendre le micro et la perche pour dire qu'on a toujours besoin d'argent. On soutient toute l'année des gens qui ont des problèmes pour se maintenir dans leur lieu d'hébergement et on a besoin d'argent pour les soutenir, pour payer des bouts de loyer, des bouts de factures. On a déjà un financement qui nous est octroyé de la part de Solidarité Sida et c'est super, mais en fait, avec l'histoire du Covid, les demandes ont explosé. Et là, depuis mi-novembre, on a même mi-octobre, on a quasiment plus d'argent. On peut plus soutenir les gens qui nous demandent de l'aide. Donc oui, là, Hello Asso, c'est super quoi. Si...
Et ben, on invite tous les auditeurs à massivement contribuer aux cagnottes qu'on mettra donc sur le blog du Cagnon Info.
Et ben, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc on a retenu, on ne vient pas vous voir, merci. On vous envoie de la thune.
On prend un messagère pour des longues durées.
Et très rapidement, peut-être un micro-agenda. Je rappelle que demain, les infirmières et sages-femmes de la clinique du Parc débutent une grève pour l'augmentation de leur salaire. Mais il y a aussi d'autres rendez-vous cette semaine.
Peut-être qu'on peut quand même vous donner très rapidement les dates de deux manifs cette semaine. Il y a une soirée de soutien à l'association IDIR Espoir et Solidarité le vendredi 16 décembre, ça ce sera à l'Illégalité, c'est à Villeurbanne, 6 rue de l'Égalité, et ça fait quand même écho à ce qu'on a raconté un peu pendant toute l'heure autour des questions de la détention, puisque IDIR est mort à la maison d'arrêt de Lyon-Corba le 9 septembre 2020 et que ses proches réclament toujours véritarité et justice. Et le 17 décembre, ce sera la manifestation pour le retrait de la loi immigration de Darmanin, la boucle est bouclée. Et oui, assez de lois liberticides, des murs toujours plus haut malheureusement, et du coup Darmanin n'est pas le bienvenu à Lyon. Il y a une exigence des papiers pour tous et toutes, une liberté de circulation et d'installation, la fermeture du premier et du deuxième CRA de Saint-Aix et de tous les CRA. Bref, rendez-vous le 17 décembre, manifestation 14h30, place Bellecour.
Et quant à nous, on vous dit à dans un mois, ce sera donc le 9 janvier ou sans doute, et on vous laisse avec les bandes continues.